Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Chaque jour, vous avez la parole pour commenter et débattre de l'actualité dans le JDA. Aujourd'hui, jeudi, nous parlons de la crise sanitaire dans le monde et de cette pandémie de Covid-19. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 2,66 millions de morts dans le monde depuis son apparition, un chiffre largement sous-estimé. Sous-estimé. L'épidémie de Covid-19 a également bouleversé nos habitudes, voyages, déplacements, rapports aussi sociaux. Il y a un an, la France et de nombreux pays d'ailleurs se confinaient pour faire face au nouveau coronavirus. Alors quel bilan faites-vous de cette crise sanitaire mondiale? Qu'est-ce qui a changé selon vous? Craignez-vous des lendemains difficiles, notamment sur le plan économique? Pour participer, appelez-nous au 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69, 33 7 66 19 77 69. Mais d'abord, nous ouvrons cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Albin, bonjour à tous. Les militaires maliens qui ont fait un bras d'honneur au peuple malien en protégeant leur frère d'armes, Aya Sanogo, auteur d'un putsch parmi les plus stupides au monde. Nous assistons aux prémices de la désintégration du pays. Où sont les promesses de ces militaires qui ont décidé de libérer le pays en moins d'un trimestre? Là, on assiste plutôt à une balkanisation. Ils humilient le peuple en se couchant devant ces bandits de grand chemin qui ne cachent pas leur objectif. Négocier dans un premier temps, ensuite s'imposer par la force des armes. Et adieu à ce pays laïque et instauration de la barbarie des plus ignobles.
Amis du JDA, bonjour. Monsieur Zied Takedine, qui avait accusé Nicolas Sarkozy sur le financement de sa campagne par des fonds libyens, s'était rétracté, je crois, en décembre 2020. Et d'abord, il l'avait accusé, il s'est rétracté. Là encore, on l'a appris dans les médias. En Georgie encore, il a encore accusé de nouveau. Il a dit que oui, Sarkozy avait financé sa campagne avec des fonds libyens. Mais en cela, la justice française ne s'acharne pas sur cette affaire. Elle s'acharne surtout des dépassements de fonds de campagne, des écoutes téléphoniques sur les avocats, parce que ça concerne les Français dans leur sang, dans leur cœur. Mais comme l'argent libyen, ça sort de l'étranger, ça vient tomber dans leur compte, les comptes de la France, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils font semblant de mener une justice là-dessus, mais ils savent que l'argent est dans leur compte, ici en France.
Amis auditeurs d'Africa Radio, je vous salue. Le RDR, avant, quand on marchait, quand on faisait les marches du temps de Laurent Gbagbo, et qu'il envoyait les soldats pour nous tuer, notre slogan était que « Tuez-nous, on est beaucoup ». C'est pour dire à l'homme à la télécommande, qu'au RHDP, il y a des femmes de valeur, il y a des hommes de valeur. Le président Ouattara l'a dit, il dit « j'ai beaucoup de fils ». Donc, ça ne sert à rien de rigoler pour le décès de quelqu'un. Je profite de mon appel pour lancer, de votre radio pour lancer un appel aux jeunes du Rodou, en particulier à ceux de celui-là. Je voudrais vous dire que le président Ouattara a besoin de nous et nous serons toujours derrière là, derrière lui pour l'accompagner. C'est ce que vous devez savoir. Il faut accueillir le président Ouattara dans la dignité. Idriss, bonne journée.
JDA, bonjour. J'appelle ce matin pour pousser un coup de gueule contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire actuel. L'on nous dit toujours que nous avons un pays émergent, un gouvernement émergent, mais l'émergence commence d'abord par une carte nationale d'identité. Voilà, l'émergence, quand on parle d'émergence, l'émergence commence d'abord par une carte nationale d'identité. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique, je peux dire en Afrique, dans toute l'Afrique, où il n'y a pas de carte d'identité, carte nationale d'identité. Or, après l'extrait de naissance pour un être humain, avant de rentrer dans la vie active, après l'acte de naissance, c'est la carte nationale d'identité. La Côte d'Ivoire n'a pas de carte nationale d'identité. Et l'on nous parle de pays émergents. Vous payez tout ce qui doit être payé pour déposer votre carte d'identité. Quelques années plus tard, on vous demande de repayer tout encore pour déposer une carte nationale d'identité. Pour refaire la même demande.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le JDA, un bilan de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 2,66 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi 16 mars. Des chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations statistiques. Ces chiffres sont donc globalement sous-évalués, avec plus de 535 000 morts. Les États-Unis sont le pays le plus touché sur la planète. Alors, comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle bouleversé vos vies? Quel bilan peut-on faire sur l'économie mondiale, mais aussi la circulation des biens et des personnes? 33 1 55 07 58 00. On se dirige tout de suite au Bénin, retrouver Vincent. Vincent, bonjour.
Oui, bonjour, chers journalistes.
Bonjour Vincent. Un an après le début de la pandémie, notamment en Europe, il faut le préciser, puisque vous êtes au Bénin, mon cher Vincent. Quel bilan faites-vous de cette pandémie? Comment le monde a-t-il changé, selon vous?
Oui, effectivement, il y a un an, jour pour jour, quand la chose s'est éclatée, surtout en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, on recueille des morts de 800, en 24 heures, 800 personnes. Mais jusqu'à présent, on a compris que tout a été ralenti et on ne constate plus cette bêtise, surtout quand nous avons constaté la mort. Les transports, les voyages sont bien repris, et aussi les Bénins aussi en préparation, parce que les gens voyagent sur l'Europe, les gens voyagent sur l'Italie et aussi sur la Grande-Bretagne, sans problème. Et aussi la distanciation sociale qu'on avait, qui était aussi, j'allais dire, préconisée pour pouvoir ralentir le Covid, la transmission. Aujourd'hui, on a compris que c'était plus comme ce qu'on observait avant, même si on demandait à prendre des précautions, c'est-à-dire à porter les masques et qu'on sort. Aujourd'hui, tout a été ralenti, c'est-à-dire on vit bien normalement.
Pour vous, on vit plutôt normalement, rien n'a changé, mis à part la panique du début. Pour vous, la situation est redevenue à la normale aujourd'hui.
Oui, partiellement, parce que actuellement, ce n'était pas comme avant. C'est-à-dire, il y a un an, effectivement, vraiment, le monde aussi, le monde était vraiment, c'est-à-dire, jouait au panique. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes un peu en jeu. Même si la troisième vague est déjà annoncée, ce n'était pas comme ce qu'on avait observé au début en Iran aussi, en Chine et aussi aux États-Unis, au Brésil. Aujourd'hui, tout va bien normal parce que l'économie va bien normalement sur le continent aussi, dans le monde entier, et mon pays en fait partie avec les hommes d'affaires internationaux et aussi nationaux.
Tout va bien, presque ou presque, nous dit Vincent depuis Abomey Calavi. Alors c'est intéressant, j'imagine d'autres. On va écouter Diomo de Beng qui lui est plutôt en France, en Île-de-France même. Diomo de Beng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
En Île-de-France.
Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio, surtout aux auditeurs de Séguéla, Kama, Belleville et de Siana et Kwama.
Merci Diomo. En Ile-de-France, là, d'ailleurs, hein, l'Ile-de-France qui attend de savoir ou pas hein, si elle sera confinée. Le Premier ministre hein, doit s'exprimer ce soir à 19h, heure locale, au regard hein, de la situation hein, qui demeure toujours tendue dans les hôpitaux franciliens. Un confinement pourrait être annoncé. Diomo de Ben, dans ce contexte, je le disais, il y a un an, la France connaissait son premier confinement hein, total, d'ailleurs. Hein, les rues étaient désertes. En tout cas, celle de Paris. Quel bilan tirez-vous hein, de cette année qui vient de passer? Auriez-vous imaginé, il y a un an, que ça allait se prolonger ainsi?
Oui, Stéphanie, avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de dire que le président auditeur venait de dire quelque chose pour l'Afrique et je pense que ça ne doit pas se faire. Il ne faut pas qu'il ait des relâchements. Au contraire, il faut toujours respecter les mesures sanitaires, la distanciation, le port des masques, et ça sera bien en tout cas. Surtout, je me réjouis de l'avènement de ces vaccins qui sont en train de se faire. Moi, pour vous dire, j'ai fait les deux vaccins parce que je sais que seul le vaccin peut nous porter
d'affaires. Attendez, Diomo de Beng, vous avez fait deux vaccins, mais vous n'avez pas plus de 65 ans?
Oui, je sais pourquoi j'ai fait les deux vaccins, parce que je suis une personne aussi qui remplissait ces conditions-là.
Ah, d'accord, autant pour moi, je pensais que vous étiez un jeune homme dynamique. Vous avez fait les deux vaccins, non, c'est-à-dire que vous avez fait les deux doses?
Je suis un jeune homme dynamique, j'ai moins de 50 ans de toutes les façons. Ah, j'ai fait les deux doses. La première dose, je l'ai faite en février, et la deuxième dose, je l'ai faite le 1er mars.
L'AstraZeneca.
Donc, du coup, Non, pas du tout.
Ah,
j'ai fait le Pfizer.
D'accord.
Je vous dis, et je reviens dessus, Stéphanie, il faut le faire, le vaccin. Je pense qu'il y a trop de désinformation autour de ce vaccin. Il faudrait que vous, les journalistes, nous, les communicants, nous fassions tout pour dire qu'il faut que les gens fassent et qu'on s'enlève dans les amalgames. Seuls les vaccins diront, nous sauverons, parce que tôt ou tard, nous serons tous obligés de les faire. Bon, pour revenir au sujet, Stéphanie, jusque-là, j'avais pas pensé un instant, franchement, que ça allait durer jusque-là. Parce que nous avons pensé que tout le monde entier allait se mettre ensemble pour pouvoir éradiquer cette pandémie. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, cette pandémie, nous devrons apprendre à vivre avec. Et ça, c'est sûr et certain. Parce que si nous devrons toujours confiner, il y aura l'économie qui sera en baisse. Et l'économie en baisse, c'est encore nous, les pauvres, qui allons en pâtir. Et je vous dis et je répète, respectons toutes les mesures, parce que non seulement le vaccin ne sauve pas, le vaccin ne nous met pas à l'abri de la Covid, mais ça nous met à l'abri de la grave affection, c'est-à-dire...
Merci.
Quand, voilà, c'est
ça évite les formes les plus graves. On va donner la parole aux autres auditeurs, Diomo de Beng, merci beaucoup hein, de votre commentaire. Alors, hein, l'économie mondiale va-t-elle se remettre de la crise de Covid-19? Apparemment, ça va quand même bien en Chine, hein, puisque la Chine a quand même eu un taux de croissance économique en 2020 de 2,3%. Il y a une reprise. Est-ce que vous craignez des conséquences économiques en Europe ou en Afrique? Charles, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Bonjour Charles, vous êtes à Ouagadougou. Même question, est-ce que le monde a changé selon vous? Est-ce que dans votre quotidien, mais peut-être, je pense peut-être surtout au terme de transport et de déplacement?
Permettez-moi de revenir un peu sur la situation. Le quotidien au final parce a vraiment changé négativement, si on peut se permettre chez nous. Parce que on a vu les frontières sont fermées, et les gens sont en chômage, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Voilà, tout ceci vient ajouter encore à la crise sécuritaire encore. Vous voyez que nous sommes dans une situation, même si souvent le gouvernement n'est pas la vérité sur la situation, nous savons que la situation est grave. Malgré les coûts, malgré le confinement, on a eu l'augmentation des cas, et plus grave qu'au début. Maintenant, concernant le monde a changé, oui, le monde a changé négativement. La pandémie nous a permis de connaître le vrai visage du monde. Parce que deux pays sont prêts à sacrifier nous les pays, et nous les pays
en développement.
Voilà. Maintenant, vous voyez, on a vu des pays qui ont stocké le vaccin pour les pays. Or, il y a deux pays même qui n'avaient pas encore commencé. On a vu aussi encore que, et puis, nous a permis aussi de connaître que nos pays africains doivent faire beaucoup d'efforts, sur le plan sanitaire. Parce qu'elle nous a permis aussi de voir la réalité. Quand, permettez-moi encore de dire, elle nous a permis de voir le vrai état des dirigeants. Quand ils sont malades, au lieu de se faire soigner en Afrique, ils passent se faire soigner en Europe. Vous voyez, moi je sais qu'après cette pandémie, nous allons avoir de vrais changements en Afrique. Parce que nos dirigeants sont conscients que pour diriger un pays, il faut d'abord la santé. S'il n'y a pas la santé, on ne peut pas diriger.
Il faut être en bonne santé pour diriger un pays. Merci beaucoup Charles, désolé pour la qualité sonore. Ce que vous avez dit Charles, et ce que je retiens de votre intervention, hein, vous avez dit que cette pandémie a montré le vrai visage du monde, hein, finalement, elle a révélé hein, les inégalités au niveau mondial, hein, mais aussi au sein de chaque pays. Hein. On a vu en France hein, comment les quartiers les plus populaires hein, étaient touchés par la pandémie. 33 1 55 07 58 00. Bonne journée à vous, hein, Charles. Un petit message de Lamarane qui, lui, est aux États-Unis. Hein, je rappelle, c'est le pays le plus touché en termes de numériquement de morts. Le bilan de cette pandémie, pour lui, est globalement catastrophique hein, dans le monde. Véritable tragédie humanitaire sans précédent qui a frappé aussi de plein de fouet tous les domaines d'activité, en fait, et enfin le hic, c'est les vaccins quoi, disponibles, des essais, et qui n'inspirent aucune garantie de confiance. Hein. C'est vrai qu'on a vu que les déplacements avaient été bouleversés, les frontières refermées, hein, comme si la mondialisation avait connu un coup d'arrêt. Le visage hein, du monde sera-t-il changé après cette pandémie? Au début, on parlait du monde d'avant. Toutankhamon, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs d'Africa Radio, en France, dans le monde et à Guibouindé, au Congo.
Merci donc, beaucoup.
Oui, donc, c'était avant de commencer, je voulais d'abord intenter un procès en béatification et en canonisation du saint Pangolais. Le pauvre Pangolais qu'on a incriminé, je crois que là, tout le monde va se rendre compte que c'est une bêtise humaine peut-être qui sortait des essais scientifiques, ainsi de suite, ainsi de suite.
Vous pensez à quoi? J'ai pas compris tout en camon, là, le sang congolais, vous pensez à quoi?
Le sang pangolais, le pauvre pangolais.
Ah, le pangolin, excusez-moi. Oui, oh là là,
voilà pourquoi je voulais intenter un procès en béatification et en canonisation.
Canoniser le pangolin qui a pris en effet des coups, et d'ailleurs, hein, on sait pas encore trop hein, l'origine du virus. Hein.
Voilà.
Voilà.
Pour moi, tout a commencé par des estimations, des sous-estimations, des surestimations des autres, des autres peuples, tout ça. Souvenez-vous, déjà au début, dès que l'épidémie s'éclate en Chine, Donald Trump, au lieu de compatir au malheur des Chinois, il commence par dire que le petit virus chinois, la petite virus chinoise.
La grippette.
Tout ça, une grippette. Ça commence déjà par des mépris et par l'orgueil de soi. Que nous sommes les plus grands, ça ne nous atteindra pas. Et là, peut-être les gens vont se demander comment c'était un piège pour aller massacrer un peuple chinois et que les autres seraient à l'abri. Donc tout ça, ça pose des questions. Et puis, chez nous, ici, en France, plus près, quand l'Italie souffrait déjà ici, les autorités françaises, c'est-à-dire de l'orgueil. Non, mais nous, ça ne va pas arriver. Nous, notre système...
Et beaucoup de méfiance. Les Français disaient que les Italiens n'étaient pas prêts. On n'imaginait même pas hein, confiner également en France.
Exactement. Donc, il y a eu, comme j'ai dit, surestimation, sous-estimation, ainsi de suite. Et puis, on nous a imposé des masques. Au début, non, le masque ne sert à rien. On nous a imposé des masques. Maintenant, tout le monde porte le masque. Hein. Vraiment, personne ne peut me contredire dans les transports. Mais malheureusement, on continue à être contaminé. Voilà, la situation est sous-tendue, est tendue, dans les hôpitaux, ainsi de suite. Et on confine. Au lieu d'attendre peut-être pour longtemps, non, on vient de confiner. D'abord, avant de confiner, on voit dans les médias, comme avait dit, je crois, Jouvon de Beng, on voit dans les médias ici, BFM, tout ça, pour ne pas les citer, excusez-moi, pour ne pas les citer. Donc, on commente, non, mais quel jour on va confiner, quel jour on va trois semaines, quatre semaines, ils ne pensent qu'à cela. Quand une autorité vient parler, vient faire une annonce, ils censurent ces médias-là. Pourquoi ils n'ont pas dit ceci? Maintenant, une fois qu'on vous confine, ce sont eux aussi qui viennent dire, une semaine peut-être après, est-ce que la vie n'a plus de sens? Est-ce que les jeunes pour trouver une copine? Tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils disent. Tout est le contraire. Tout est au contraire. Donc, et on déconfine en quelque temps, et après, les mêmes effets reviennent, reprennent. on ne sait pas.
C'est tout est sous au contraire, hein, vous avez dit tout en camant, en effet, hein, beaucoup d'incertitudes. Et encore un an après, beaucoup d'incertitudes demeurent hein, quant à ce virus, quant à la réponse politique. Hein, voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de cohérence, en tout cas, hein, c'est ce que beaucoup de personnes ressentent. Merci beaucoup, tout en camant. On va traverser la Manche pour rejoindre Georges, normalement. Bonjour Georges.
Ouais, bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs.
Bonjour Georges, vous êtes à Londres. Alors, je ne sais pas si c'est ça, si c'est de ça que vous vouliez parler, mais ce qu'on peut dire aussi, ouais, c'est que la pandémie a pas mal bouleversé le monde du sport, quand même,
ouais,
aussi.
Ouais,
des annulations.
Des annulations, et puis, bon, les matchs se jouent sans spectateurs. Mais moi, je voulais seulement parler à propos des effets et puis les impacts que cette pandémie a créé. Parce que moi, j'ai connu des gens qui ont décédé dans ça. Là. J'ai connu des gens proches même, à cause du COVID, ils sont décédés. Et il y a des enterrements même qu'on est en train d'organiser pour un des amis. C'est un ami qui est sur ma paroisse, il est décédé. Là, on est en train d'organiser ça le 8 avril. Et donc, c'est une pandémie qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On sera obligé de se méfier. Parce qu'actuellement, tout d'abord, vous savez qu'en Angleterre, avec notre gouvernement, bon, il y a eu pas mal de choses. Mmh. Par exemple, ils étaient en retard pour le confinement. À côté de cela, pour les masques de préparation, il y avait eu du retard aussi pour la livraison. Et puis, bon, la vaccination, c'est une bonne chose. On est en train de... la stratégie du gouvernement anglais, bon, ça a été une bonne stratégie. Mais par contre aussi, il y a eu des méfiances parce que les gens se disent, bon, surtout au niveau d'AstraZeneca, le cas d'AstraZeneca, que les gens se... Donc, aussi, c'est pas seulement en Europe. Ici, en Angleterre, les gens se méfient. Surtout que nous, vous savez qu'en Europe, l'Angleterre a eu plus de morts de COVID. À cause du
retard, vous pensez, on se rappelle à Boris Johnson retard, au début, vous ne voulez pas confiner. Hein.
Et puis du lâchement de notre gouvernement. Et puis à côté de cela, il y a un peu de scandale aussi. Parce que
ça donnera un impact politique? Quelqu'un disait, voilà, Trump n'a pas cru en la pandémie, il en a aussi payé le prix, c'est pour ça qu'il a perdu. Pensez-vous que Boris Johnson pourrait jouer sa place, perdre sa place à cause sa gestion de la pandémie?
Je le pense bien. Parce que bientôt, le Parti travailliste a demandé qu'il y ait une enquête, ce que nous appelons un inquest, une investigation sur comment les contrats ont été alloués. D'abord, l'hôpital, ce que nous appelons NHS ici, que le gouvernement, depuis 10 ans, ils n'ont pas mis assez de sous dedans. À côté de cela, les gens, les docteurs, les infirmiers, les sages-femmes, ceux qui travaillent à l'hôpital, ils n'avaient pas assez de protection. Et au niveau de l'ethnie, l'ethnie minoritaire, moi je fais partie, moi je suis africain d'origine, il y a eu beaucoup de infirmières et autres qui ont décédé dans ça. Beaucoup de docteurs qui viennent du Pakistan, de l'Inde, qui ont décédé dans ça là, parce qu'ils n'ont pas eu assez de protection. Et à côté de cela aussi, ils travaillent jour et nuit. Donc, et ça risque de l'affecter. Je pense bien et je souhaite que, au moins quand même que les politiciens savent, parce qu'il y a eu tellement de relâchements. Vous imaginez, les premières semaines, quand on avait vu, on voyait à la télévision que ça chauffait en Italie et puis en Espagne, notre premier ministre disait qu'il est parti à l'hôpital, qu'il saluait les gens.
Qu'il avait serré la main, effectivement, hein, c'est ce qu'il avait dit hein, d'ailleurs. Hein. On l'a vu, hein, beaucoup de dirigeants qui ont minimisé hein, la pandémie ont eux-mêmes attrapé le Covid. Merci beaucoup, Georges, de votre intervention. Je vous souhaite une très belle journée hein, du côté de Londres. On va se diriger à Conakry, retrouver Tierno. J'espère que c'est un peu calme. Oh, Tierno, bonjour. Ah, c'est calme parce qu'on n'entend pas Tierno. C'est aussi simple que ça. On reste à Conakry, retrouver Moussa, normalement. Moussa. Ah, non plus. Mais c'est pas grave, on va retrouver Aiko Mopongi, qui lui est en France. Aiko qui a été malade du Covid-19, si je me rappelle bien.
Bonjour, Madame Hartmann.
Bonjour, Aiko. Bienvenue dans le journal des auditeurs.
Merci. Moi, je veux parler parce que ça fait une année que c'était aujourd'hui, le 18, j'étais attrapé. J'étais malade de coronavirus. Et moi, c'était le 18 mars 2020.
Et vous avez attrapé le Covid-19 juste après le début du confinement?
Le début du confinement, c'était aujourd'hui, le 17. Ça fait les 17, ça fera une année, ouais.
D'accord.
Mais grâce à Dieu, que, ouais, ça a été, moi, c'est avec ma femme qui avait fait 15 jours à l'hôpital, mais grâce à Dieu, il était sorti, il n'y avait pas de soucis, c'est bon. Mais ce que nous voulons, parce que le coronavirus a changé beaucoup de choses, Madame Actman, sur les plans social, politique, financier, économique, donc, tout a changé, vraiment, c'est difficile. Même quand on parle même sur les plans social pour faire des démarches partout, partout ici en France, il faut passer par la télétravail, c'est difficile, ça. Pour les gens qui n'ont pas vraiment l'habitude à démanier l'internet, c'est difficile pour eux. Ils arrivent pas à faire des démarches. Ils restent comme ça. C'est vraiment difficile. C'est le plan social. Le travail, c'est devenu difficile vraiment. Les gens ne touchent pas beaucoup d'argent. Les gens ne travaillent pas. Il n'y a pas vraiment de travail. Tout le monde que moi je connais sont partis à la Pôle emploi. Chômage partiel, il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur travail. Vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Pour ça, nous demandons qu'est-ce que nous allons faire pour que nous retrouvions encore la vie qu'on avait avant. C'est vraiment, c'est difficile. Mais pour voyager.
Est-ce que, je vais vous poser une question à Ikomo Pogge en forme de conclusion, peut-être pour votre intervention. Est-ce que vous pensez qu'on retrouvera la vie d'avant ou que le monde est définitivement changé?
Mais on va retrouver la vie d'avant.
D'accord.
Mais on va retrouver la vie d'avant. Si tout le monde se met d'accord pour changer, pour trouver une solution pour finir avec le coronavirus, on va trouver la vie d'avant. La vie d'avant, c'était mieux que par rapport aujourd'hui.
C'était mieux la vie d'avant.
C'était mieux la vie d'avant que maintenant.
Merci.
Ouais, parce qu'on porte des masques partout. Il n'y a pas vraiment moyen de vivre. Nous ne vivons pas. Quoi.
Merci
nous
beaucoup.
Coincés, nous sommes contrôlés par les gens qui ont l'argent. Nous ne sommes pas contrôlés.
Merci beaucoup, Aiko, qui est nostalgique de la vie d'avant. J'imagine que vous êtes nombreux. On va finir avec Moussa Conakry, normalement.
Oui, bonjour.
Bonjour Moussa. Bienvenue dans le journal des auteurs. Je vous donnerai une petite minute. Alors, vous avez entendu un peu Aiko Mopongi qui dit la vie a changé. Est-ce que pour vous aussi, à Conakry, la vie a beaucoup changé? Et quel regard portez-vous sur cette pandémie?
D'abord, je remercie les auditeurs. Depuis que vraiment cette maladie, ce virus a frappé la Guadeloupe de Guinée, la vie ne fait que s'empirer tous les jours. Les choses ne font que ne deviennent toujours difficiles. Car actuellement, le confinement avant, c'était de 18h à 5h du matin. Et ils ont ramené à des horaires à 4h. Et maintenant aussi, c'est ramené aussi de 22h à 5h du matin. Donc, vous voyez, donc ça joue sur la vie et sur le coût de la population. D'un côté, et de l'autre côté aussi, depuis que cette pandémie est là, on n'arrive pas toujours à trouver un vaccin solide qui peut guérir les citoyens ou qui peut permettre aux citoyens vraiment d'être vacciné et de ne plus être contaminé par cette maladie. Bon, en Guinée, on a commandé plus de 200 000 doses du vaccin russe chinois et 50 000 doses du vaccin russe. Et la vaccination a commencé dans les centres administratifs et dans plusieurs départements ministériels aujourd'hui.
Merci.
Mais le problème est là, c'est les conséquences, n'est pas ce que ces vaccins vont entraîner.
Mais vous êtes pas sceptique, sur les vaccins, Moussa. D'ailleurs, la Commission européenne doit statuer ce soir, tout à l'heure, sur le vaccin AstraZeneca. Merci beaucoup, Moussa. Je suis désolée, on arrive à la fin de l'émission. Il y a M. Darin qui disait aussi il est temps qu'on unisse nos forces. Merci à tous de votre participation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Demain, vous le savez, c'est vendredi. C'est donc la libre antenne. Nous pourrons revenir sur ce sujet, mais aussi bien d'autres. À demain.